Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Quand on dit boulevard, on pense rire facile. Alors on va immédiatement écarter le terme de boulevard car la comédie hilarante qui réunit mes deux invités, Victoria Abril et Lionel Astier, est d'une modernité absolue et d'une intelligence qui revigore. L'année dernière, Drôle de genre, pièce écrite par Jade Rose Parker, a triomphé à Paris, est partie en tournée dans toute la France, d'ailleurs jusqu'au mois de février. Et la très très bonne nouvelle, c'est que Drôle de genre, qui réussit quand même l'exploit de mettre d'accord aussi bien Télérama que Le Parisien, eh bien, Drôle de genre revient au Théâtre Antoine à Paris pour 50 représentations exceptionnelles. Je reçois donc deux comédiens heureux qui portent ce triomphe avec un abattage et une virtuosité vraiment très, très impressionnant. Bonjour Victoria Abril, bonjour Lionel Astier.
Bonjour, la Catale.
Et voilà, en duo. Bon, j'avoue avoir quand même très rarement vu la presse à ce point unanime. Ça relève carrément du phénomène, cette pièce.
Elle est géniale, cette pièce.
Oui, elle est à part.
Elle est totalement à part.
Et ce n'est pas une question de modernité. Et Jade Rose Parker l'avait écrit en 2017. Moi, je l'ai lu en 2019. Je suis tombée complètement. En plus, je l'ai lu. Je l'ai cherché, cette pièce. J'ai cherché à jouer une transsexuelle. Mais dans la soixantaine, parce que j'avais joué une à 14 ans.
Au cinéma, en Espagne.
Au cinéma, en Espagne, qui d'ailleurs, le film est ressorti en salle le mois de novembre, avec une copie restaurée, nouvelle, et magnifique. Mais c'était un fait divers, et c'était une histoire triste, l'histoire d'un garçon qui voulait être une fille et qui perdait la vie au bloc opératoire. Donc je me suis dit, il faudrait absolument que je trouve un rôle des transsexuels qui a réussi sa vie.
Et là, c'est une comédie. Alors,
c'est pas une comédie. C'est une tragicomédie.
Allez, on va dire tragicomédie parce qu'on rit
interactive et thérapeutique.
Bah voilà. Le sujet, effectivement, il est audacieux. Il fallait surtout éviter les écueils du rire facile. Là, on rit avec des arguments, on raisonne. Donc, il s'agit d'un couple marié depuis 30 ans, qui s'aime vraiment. Lui est un politicien en campagne assez cynique. Elle est une épouse séductrice et dévouée. Et voilà qu'un soir, avant de partir à l'opéra, Carla, que vous interprétez donc, Victoria Abril, décachette l'enveloppe d'un laboratoire et elle découvre qu'elle a un cancer. Mais elle a un cancer de la prostate.
Oui,
et
voilà,
son mari, bien sûr, n'entend pas du tout, dans l'immédiat, ce que ça peut signifier. Un cancer de la prostate, Lionel Astier.
Non, ça doit vouloir dire qu'il n'en a pas, il n'a pas de soucis de ce côté-là, lui. Il ne comprend pas. Effectivement, il ne comprend pas tout de suite, non. Il ne comprend pas, mais quand même, pour revenir sur la modernité de tout à l'heure, c'est la modernité dans la mesure où je trouve que le thème est quand même rarement abordé au boulevard.
Oui.
Hein, on est d'accord. C'est que là-dessus, si
ou alors dans un rire, on va dire, un peu gras, n'est-ce pas, qui va bien chercher facilement le spectateur. Là, c'est pas du tout le cas.
Non, c'est pas le cas.
Bon, alors, Carla est donc née homme. Elle s'est fait opérer il y a longtemps au Brésil, mais elle a gardé, comme vous le dites dans la pièce, certains marqueurs de son passé, comme la prostate. Vraiment, à une époque où le changement de genre, donc de sexe, est un sujet récurrent dans les médias, cette pièce, elle soulève de sacrées questions.
Oui. Oui, absolument. Cette pièce, c'est un appel à la tolérance. Dans l'occurrence, la tolérance était la tolérance sur l'identité, etc. Mais c'est toutes les tolérances. C'est toutes les intolérances.
Parce que je me suis renseignée, il y a en France entre 60 000 et 70 000 transgenres. Lionel Astier, d'ailleurs, dans la pièce, vous êtes... votre personnage, il est dans la sidération, puis dans la colère, quand vous apprenez que la femme que vous aimez depuis 30 ans est née homme et s'est faite opérer avant de vous rencontrer. Mais dans la vie, vous avez cette formule. Vous dites, transgenre, c'est changer pour se rapprocher de soi.
Oui. Oui, mais ça, c'est moi qui le dis, effectivement.
Mais bien sûr,
bien sûr.
Votre personnage.
Oui. Je trouve ça bouleversant. Enfin, je trouve cette démarche bouleversante parce que c'est pas changer, c'est se rapprocher de soi. C'est-à-dire, on est tous, quand on est jeune, on est tous des gens en devenir, on a besoin de se réaliser. Et là, en plus, il y a cette idée d'être mal dans son corps, ou en tout cas de ne pas être dans le bon corps. Et de faire cette démarche. Et c'est vrai, ça m'impressionne énormément. Je le dis d'ailleurs dans la pièce, je crois que c'est le moment où je suis peut-être plus sincère. Quand tu dis c'est bouleversant, quand elle me raconte son histoire, je trouve ça réellement bouleversant.
Alors, effectivement, Victoria Abril, en 77, au cinéma, vous aviez incarné, vous aviez 15-16 ans, n'est-ce pas ? Vous aviez incarné le personnage d'un jeune garçon qui voulait devenir une femme. Bon, ce film de Vicente Aranda, qui avait pour titre « Cambio de sexo », c'était très culotté de le tourner dans l'Espagne tout juste post-franquiste. Ça a fait un scandale à l'époque, mais aujourd'hui, il est considéré comme un film culte, ce film. Et vraiment, il a ouvert les portes au cinéma, par exemple, d'Almodovar. Non ?
Bah oui, parce que c'était avant.
mais surtout parce qu'il y avait, on va dire, la curiosité, l'audace et toutes les transgressions dont Almodovar s'est emparé ensuite.
Surtout, on sortait des 40 ans des censures et des dictatures. Et donc, quand tu enlèves la ceinture après 40 ans des répressions, bah forcément, il y a une effervescence que nous, on appelait la movida.
Ouais.
Et c'est de là où il est sorti Vicente Aranda d'abord, et puis après Almodóvar et tous les autres. Donc voilà, nous, à cette époque-là, on a eu 40 ans pour tout perdre et tout à gagner. Donc quand on est sorti de la dictature et de la censure, boum, voilà qu'on est devenu un des pays les plus modernes de l'Europe.
Alors, donc ouais. Vous vouliez vous emparer de ce sujet, mais cette fois-ci pour le théâtre. Quand vous en avez parlé à un producteur de théâtre, justement, il avait cette pièce dans un coin de la tête, il vous l'a fait lire.
Non, c'est que moi j'ai demandé à Pascal Guillaume, qui était le producteur des Paprika, que j'ai cherché à jouer le rôle d'une transsexuelle. Et il m'a dit, attends, j'en ai une dans les tiroirs, elle s'appelle Drôle de genre.
Ouais.
Et il me l'a donné à lire. Je l'ai lu 3 fois de suite, tellement j'ai trouvé ça génial. Et je l'ai appelé en disant, écoute, je vais rencontrer l'auteur. Donc, il me donne rendez-vous avec l'auteur chez moi. J'ouvre la porte et je vois une gamine, jolie comme tout, que je me suis... Parce que quand je lis la pièce, c'était signé J.R. Parker. Je me suis dit, c'est un auteur anglais. Parce que c'est vrai que cette comédie, il a quelque chose de comédie anglaise. Et j'ai dit, c'est très bien.
Et puis, donc, on pouvait pas savoir si c'était une fille.
Et puis, voilà. Je vois une fille et je lui ai dit, il est où, J.R. ? C'est ton papa ? Il s'égare. Il me dit, non, J.R., c'est moi, Jade Rose, Parker. Et c'est moi qui ai écrit la pièce. Et moi, je l'avais dit au producteur, cette pièce, elle est écrite pour moi. Attends, il y a un moment où ça parle du cinéma d'Almodovar. Et elle me dit, et c'est pas pour vous que j'écris, Carla. La seule actrice pour laquelle j'écris, c'est pour moi. Je vais jouer Louise, votre fille. Voilà comment ça s'est passé,
oui,
notre rencontre.
Est également actrice.
Elle est absolument également actrice. C'est pour ça qu'elle est auteure, pour pouvoir jouer des rôles. Elle s'écrit des rôles.
Et alors, comment est arrivé Lionel Astier dans l'aventure?
Alors moi, j'ai reçu la pièce. Alors c'est très curieux. Je savais pas que tu l'avais lu 3 fois de suite. C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai lu 3 fois. La 3e fois, j'ai appelé Dominique, mon épouse, et je lui ai dit, je vais te lire une pièce. Elle me dit, il faut que tu la fasses. Et Jade Rose Parker, moi j'avais compris que c'était une femme, mais par contre, je pensais que c'était une femme qui avait vécu. C'est-à-dire
bien
une
sûr.
Femme d'une cinquantaine d'années minimum.
Voilà, voilà, parce dit, que, écrit, parce oui. que c'est oui. tellement argumenté, habile, et bien construit, il y a une maîtrise folle.
Voilà, bien un bébé.
Mais alors, c'est pas courant quand même de donner la réplique sur scène à l'auteur de la pièce, puisque Jade Rose Parker incarne votre fille à tous les deux.
Oui.
Comment vous vivez ça ? D'avoir l'auteur chaque soir sur scène face à vous.
Très bien, très simplement.
Écoute, elle connaît très bien ces deux casquettes, une actrice et une auteure. L'auteur, elle a déjà écrit depuis 5 ans et maintenant elle est actrice. Et puis surtout, on a un metteur en scène qui s'appelle Jeremy Lipman,
voilà.
Qui nous a fait une mise en scène absolument époustouflante parce que cette tragicomédie, il l'a donné un format vaudeville moderne, c'est-à-dire sans poussière. C'est aussi musical. Bande sonore, les lacs des cygnes, il y a de la danse.
Vous dansez d'ailleurs,
cher Victoria. Il y a de la danse classique, de la danse contemporaine.
Voilà.
Et Lionel Astier, il a sa minute d'expression corporelle. Perdona.
Marquez l'expression corporelle et l'expression vocale. Pendant 2 heures, ça y va fort, cher Lionel. Alors, Michel Bouquet disait, le public ne vient pas nous voir jouer, il vient jouer avec nous. Mais alors, avec cette pièce, Drôle de genre, ça va encore plus loin, car à un moment donné, vous brisez ce qu'on appelle au théâtre le 4e mur,
oui.
C'est-à-dire que vous prenez à partie le public pour une sorte de sondage. Ça, c'est quand même très très rare. J'imagine que Jeremy Lipman, justement le metteur en scène, s'est beaucoup amusé à ça. C'était écrit dans la pièce, bien
oui,
sûr,
oui,
ce
tout
moment.
À fait, tout à fait.
Mais c'est savoureux à jouer, ça. avec un public chaque fois différent.
Je vais te dire pourquoi, parce que quand on l'a joué, tu sais, on l'a lu en 2019, en 2020 on allait la jouer, le Covid est arrivé, les 16 mois les théâtres fermés, et quand finalement ils ont pu ouvrir, il y avait les pass sanitaires, donc on s'est dit non, 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 on va attendre 2022 pour que tout le monde puisse voir la pièce. Donc on attend 2022, et voilà que ça continue, les restrictions, les doubles vaccinés qui n'avaient pas fait la troisième ne pouvaient pas venir, bon, bref. Et on l'a finalement joué, et donc après 2 ans, plus les gens étaient masqués, hein, donc après 2 ans de distanciation sociale, sans se voir, sans s'entendre, on devient sourd, on comprenait rien. Et avoir les publics, et les jours où on a carrément filmé, carrément les jours où on nous a enlevé les masques, on n'était pas obligé de mettre les masques, et on a vu les publics. Donc c'est pour ça que Jérémy Lipman a fait sauter les quatrièmes murs, pas qu'à la deuxième partie, comme tu as vu, mais aussi dans la première, c'est-à-dire les publics étaient là. Ils participaient, ils jouaient avec nous, et c'est grâce au public que la pièce est devenue une tragicomédie.
Bien sûr, mais il y a un moment où Lionel Astier dit « Eric, tu nous mets la lumière là
?»
C'est tout à fait étonnant parce que nous, public, on est très surpris. On se dit « Mais que va-t-il nous arriver ?»
C'est un sondage d'opinion.
Sondage d'opinion, c'est et ça c'était quand même imprévu.
Oui, non, mais c'est bien, c'est vrai. Et en plus, je trouve que ça va très bien la pièce, ça va très bien justement sur ce sujet, et justement... sur ce conflit aussi, parce que c'est une fiction, donc il y a un conflit, je suis le côté un peu négatif du conflit. mais c'est très bien de prendre le public à partie, parce qu'en fait, ça crée un débat, toujours cette
bien
pièce.
Sûr. Puisque le sujet, de toute façon, fait débat dans
voilà.
la société.
Et en plus, le génie de Jeanne Rose, c'est d'avoir fait un homme politique qui a des idées sur tout, qui a des idées sur les gays, sur les transsexuels, sur les transgenres, mais c'est pour sa campagne électorale, évidemment. Et donc, il est pris à son propre jeu, à son propre discours.
Oui. Comme il dit, on est toujours très ouvert, sauf
quand
ça nous concerne.
Alors, Victoria Abril, vous avez grandi dans une Espagne très éloignée de celle de Pedro Almodovar, dont vous serez la première muse, car votre enfance s'est déroulée dans une Espagne, on va dire, encore asphyxiée par Franco. Votre maman était mère célibataire, et pour ne pas heurter la morale, on vous avait dit, enfant, que votre père était mort.
Oui. Mon père est mort 2 fois. Une fois, c'est ma mère qui l'a tué. Et une... pour pas qu'on ait... C'était mieux être orpheline que fille naturelle d'une mère célibataire, parce que c'est là où on devient...
À cette époque-là, ça passait mieux.
Ça veut dire fille des femmes pas mariées. Donc, c'était vraiment... Ah non, mais c'était l'horreur. On était non essentiels. Hein. Voilà. Là, c'est carrément... On n'avait plus rien. Donc, quand Franco est mort, moi, j'étais une fille qui voulait être un garçon. Mais, en fait, pas vraiment sexuellement un garçon. Je voulais avoir
les droits des hommes.
Voilà. C'est-à-dire pouvoir travailler, voyager, avoir un compte en banque, sans avoir un mari, sans avoir l'autorisation du mari. Et donc, quand Vicente Aranda m'a proposé mon premier film avec lui, qui est « Cambio de sexo », c'est ce film-là qui a décidé, que j'ai décidé, que j'arrêtais la danse classique. Parce que moi,
oui, parce que vous étiez au conservatoire de Madrid.
Oui.
Vous aviez fait combien d'années de danse classique ?
Cinq années. J'ai raté la sixième à cause justement des cambios de sexe. Donc, et à ce moment-là, j'ai décidé de devenir actrice et raccrocher les pointes des ballets que j'ai décroché 45 ans plus tard pour jouer le drôle des genres.
Mais alors, attendez, j'ai plein de questions à vous poser. Ce papa dont on vous dit quand vous êtes enfant qu'il est mort, comment avez-vous découvert que c'était faux? Parce qu'il était bien vivant, il était ingénieur.
Grand-mère, notre mère, pour ne pas nous faire souffrir avec les autres et les comportements des autres filles, nous avait dit qu'il était mort. Donc voilà, ton père est mort. Et genre 15 ou 16 ans, et la grand-mère... qui était en train de mourir, va, il nous lâche les morceaux, pas à moi, à mon frère, qui après nous l'a dit, qui a dit, votre père est vivant, il est ingénieur des chaussées et ponts, il travaille au ministère des Obras Públicas, et voilà.
Et donc, si immédiatement, j'imagine, vous avez dû avoir l'envie de le voir.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Je me suis dit, quoi ? On vit dans la même ville, etc. Et on ne se connaît pas, il n'a jamais cherché à nous voir. Donc non, je l'avais très très mauvaise. Mais ma sœur, qui est un peu plus malléable, a dit oui c'est vrai, non mais on va aller. Et donc elle a décidé, un an plus tard, de se présenter au ministère d'Obras Públicas et demander pour ce monsieur. On lui a dit troisième étage, il monte au troisième étage, il demande pour lui, et la dame lui dit « Ah, mais vous a, on ne vous a pas prévenu, il est mort hier soir. »
Non.
Donc,
il
hier est... soir.
Hier soir.
Non.
Donc, tu vois, voilà, on ne l'a pas eu. On l'a pas eu. Moi, je voulais voir sa tête, parce que ma mère avait... On n'avait aucune photo, aucune... Rien. Ma mère avait qu'elle est morte.
Vous avez-elle dit après que vous ressembliez à votre père ?
Si, parce qu'on a réussi, ma sœur a réussi après avoir suivi et poursuivi les pauvres enfants de... Parce qu'il a eu quatre... On a eu quatre frères, tous hommes. Et nous, on n'était que des filles. Donc, et il a eu une photo des carnets. J'ai découvert le visage de mon père à... Attends, je faisais avec justement Almodovar, à Talon Aiguille. Et c'est là où, après deux ans de demandes, on a vu ses frères, mais ils étaient pas, parce que évidemment ils trouvaient ça probablement injuste ou je sais pas quoi. Donc quand la photo est arrivée, c'est là où j'ai vu que c'était vraiment mon père, parce qu'on a les mêmes nez et les mêmes yeux.
Incroyable.
Si.
Bon, vous, Lionel Astier, vous avez grandi dans les Cévennes, entre la pêche à la truite et aux écrevisses, le braconnage, les départs à l'aube pour cueillir les champignons, c'est ça, la chasse avec votre père, les affachades. Alors j'ai appris ce mot, je ne savais pas que ça signifiait cette façon, voilà, de griller les châtaignes. Tout ça dans voilà la nature puissante et glorieuse des Cévennes. Vous avez aimé votre enfance ?
J'ai aimé mon enfance, oui, jusqu'à l'âge de 10 ans.
Parce que
mon père est mort.
L'année de vos 10 ans ?
Oui. Et j'ai perdu mes deux grands-pères dans les deux années qui ont suivi. C'est-à-dire, j'étais un très bon élève, j'étais très heureux, je suis devenu un cancre.
Ouais.
Et je suis allé au lycée et j'étais un peu dégoûté, j'avais pas envie de faire des études. Je commençais à tourner un petit peu mal. Et puis, j'avais des fulgurances au lycée. C'est-à-dire que de temps en temps, j'avais rien, j'avais des... presque des blâmes. Et puis, de temps en temps, j'avais un premier prix de dissertation où j'avais un truc. Et donc, une prof de français a dit « Ce garçon n'est pas complètement foutu. Il va peut-être faire quelque chose. » Et son père était prof de dessin dans le même lycée. Et elle se consulte avec son père. Elle dit « On ne pourrait pas faire quelque chose pour lui. » Et le prof de dessin m'a pris. Il m'a dit « Je vais te faire préparer les Beaux-Arts. » Et je suis entré aux Beaux-Arts. Alors, je n'avais pas de diplôme. Donc, quand on n'a pas de diplôme, aux Beaux-Arts, on entre sur un dossier de dessin. Donc,
d'accord.
J'étais pas trop mauvais. Et je suis rentré
Qu'est-ce
au
que
Beaux-Arts.
Vous avez demandé de dessiner pour entrer aux Beaux-Arts ? C'était à Lyon, hein, je crois.
J'étais aux Beaux-Arts de Lyon, oui.
Et qu'est-ce que vous avez demandé de dessiner ?
Je dessinais ce qu'on fait aux Beaux-Arts, des plâtres, des...
Il y avait un concours ? Non,
c'était un dossier. On devait préparer un dossier et on rentrait sur l'acceptation de ce dossier. Donc, il y avait des choses qui étaient faites au fusain, à l'huile, où il y avait à la plume, à l'encre de Chine et tout ça. Je suis rentré sur ce dossier.
Mais les Beaux-Arts, c'est pas le théâtre.
C'est pas le théâtre, mais j'avais un copain avec qui je bossais. Son frère était acteur. Et il me dit, tu veux pas venir travailler ? Ils ont besoin de gens pour faire le décor. Quand je suis arrivé au théâtre, j'ai travaillé au décor, on m'a dit, ça te dirait pas de jouer un peu ? Parce qu'on cherche des... Et voilà. Et puis, j'ai joué tout le temps.
Comme on est une vocation. Bon alors, si j'ai bien compris, Lionel Astier, Gérard Lanvin disait, moi j'ai fait l'acteur d'abord pour gagner ma vie. C'est comme ça que ça a démarré.
Ouais.
Pendant que... Victoria, en revanche, elle était choisie et dans un film qui lui correspondait complètement comme Mieux des Sexos, puisque elle était gamine mais se rêvait garçon. La suite, vous allez nous la raconter dans un instant. On fait une pause très 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 courte. On se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Vous ne pouvez pas passer par Paris sans aller applaudir au Théâtre Antoine. Drôle de genre. Pièce irrésistible de Jade Rose Parker, dont l'affiche réunit quatre sacrés talents. Hein. Axel Huet, Jade Rose Parker et mes invités, Victoria Abril et Lionel Astier. Alors, on a pris la machine à remonter le temps. On était vraiment à la sortie de l'adolescence. On a évoqué, chère Victoria Abril, ce film de Vicente Aranda, très très audacieux, dans l'Espagne post-franquiste Cambio de Sexo, dans lequel vous jouiez un jeune garçon qui voulait devenir une fille. Mais la portée du sujet, bien sûr, ça correspondait à ce dont vous rêviez parce que vous aviez envie d'avoir les mêmes droits que les garçons dans cette Espagne post-franquiste, mais vous aviez conscience de la portée du sujet et de ce qu'il risquait de remettre en question dans la société dans laquelle vous étiez immergé. Par exemple, votre maman, elle vous a laissé, vous étiez mineur, elle vous a laissé tourner sans aucun problème ?
Mais carrément, il faut savoir que moi, j'ai fait de la danse des 8 à 14 ans. Et le premier film que j'ai fait, c'était pas un cambio de sexe, c'était... je n'ai fait 5 films dans l'année. Et qu'on m'a proposé, et je n'avais pas d'argent, ni rien du tout. Et je ne voulais pas être actrice. J'ai dit oui, parce que moi, j'étais obligée de commencer à travailler comme secrétaire. Parce qu'il fallait gagner sa vie. À 14 ans, tu arrêtais les études et tu commençais à travailler comme secrétaire en septembre. Donc, le cinéma, mon premier film est apparu en avril. C'est pour ça que je m'appelle Victoria Abril, pour ne pas être secrétaire en septembre.
Donc, mais la première année, j'ai fait... Mais était-il nécessaire de changer de nom ?
Si, ma mère m'avait... c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé par téléphone pour me demander quel nom je voulais choisir pour mon premier film. Ou si je voulais changer... Donc je lui dis, j'en sais rien, attendez. Et je lui dis, maman, c'est la production qui demande si je veux, quel nom je vais choisir, si le mien ou on change. Elle me dit, change, au cas où.
Au cas où,
tu vois, pour pas... Et donc, il y avait un agenda là, j'ai cherché les centres de la journée, j'ai vu Avril, j'ai dit, Victoria Avril. Et voilà comme ça que je suis devenue.
Et ainsi elle est née. Bon, vous aviez 16 ans à peine, Victoria Abril.
J'ai 15 ans.
Oui, mais attendez, là je vais vous parler d'un film incroyable. J'ai appris que vous aviez tourné aux côtés d'Audrey Hepburn,
oui, là,
et Sean
14.
Connery.
Ça c'est la première année, c'est
alors
le deuxième film.
Alors là vous
film.
Aviez quel âge ?
14.
Mais incroyable. Donc auprès d'Audrey Hepburn et Sean Connery dans le film de Richard Lester, La Rose et la Flèche. Vous saviez ça ?
Non.
De votre camarade ?
Non, je ne savais pas.
Bon. Audrey Hepburn et Sean Connery, là carrément on est dans la légende. Que vous reste-t-il de ce tournage ?
Écoute, à l'époque, j'y allais pas beaucoup au cinéma, j'y connaissais pas ces acteurs. Les choses qui m'ont resté...
Mais quand même Sean Connery, James Bond...
Non, nada. J'avais vu que...
Et My Fair Lady, Audrey Hepburn...
Non. J'avais même pas de télé, alors imagine-toi, au cinéma, on allait pas souvent. Mais par contre, ce que j'ai... Le truc qui m'a resté, c'est qu'on tournait à Saint-Sébastien et c'était un petit rôle, ne crois pas que c'était un petit rôle. Et donc, je suis en train de marcher, un truc d'époque, et je vois tout d'un coup une roulotte qui dit Victoria Mérida. Je dis, tiens, c'est marrant, il y a quelqu'un qui s'appelle comme moi. Parce que ces films-là, j'ai signé mon vrai nom. Et en fait, c'était moi. Et c'était à moi et on m'a dit, si, tu peux entrer. Et la chose qui m'a surpris le plus... c'est de voir un plateau avec des fruits entiers. Parce qu'à l'époque, on ne les achetait que les fruits coupés, celles qui étaient abîmées ou un peu coupées, et c'était moins cher.
Mais c'est bouleversant la notion, justement, du luxe ou d'avoir un fruit entier.
Oui.
Elle tourne entre Sean Connery et Audrey Hepburn, et ce qui la fascine, c'est le plateau de fruits dans sa loge.
Entier, hein ?
Entier, dit Victoria. Bon, vous retrouverez, Victoria Abril, Vicente Aranda pour d'autres films, effectivement. Et puis, vous deviendrez la première muse de Pedro Almodovar. Vous, Lionel Astier, donc, à 17 ans, vous entrez aux Beaux-Arts de Lyon, mais finalement, vous allez vous retrouver sur des scènes de théâtre. Et alors, à Lyon, il y a de grands noms comme ceux de Patrice Chéreau,
oui,
comme ceux de Roger Planchon, de Marcel Maréchal, qui viennent régulièrement faire de grandes mises en scène. Ça a été vraiment une période d'incubation pour vous, une période très forte.
En fait, pour payer mes études, parce que pareil, c'est une histoire d'argent, ma mère ne pouvait pas me payer les études, et puis je ne voulais pas non plus qu'elle travaille davantage pour les payer, donc j'ai travaillé en même temps et j'ai eu la chance de pouvoir entrer à l'atelier du TNP de théâtre.
Oui.
Donc j'étais donc peintre décorateur et je travaillais
peintre décorateur d'abord extraordinaire
sur les décors de Patrice Chéreau, de Roger, ouais, Planchon. Et mon chef, le peintre, me disait, tu vas aller au théâtre, tu vas te mettre dans la salle, tu vas aller regarder répéter et quand ils feront des pauses, tu iras faire les raccords et à 19h tu rentres chez toi. À 1h du matin, j'étais encore là, parce que c'était Patrice Chéreau qui répétait, et j'en avais plein les yeux, et je disais, il ne faut pas aller au théâtre pour faire des raccords.
Mais on essaye de se faire repérer,
Et mon chef peintre m'a dit, je sais qu'un jour je ne te reverrai pas. Ah. Je sais, un jour tu vas partir.
Mais j'imagine que vous rêviez de vous faire repérer pour voilà quelques phrases, pour entrer dans l'histoire, pour jouer.
Non, vous étiez juste observateur.
Non,
je suis très je comprends très bien l'histoire des fruits entiers parce que c'est exactement ça au départ. Au départ, il faut qu'on gagne notre vie. Elle veut pas être secrétaire. Moi, je voulais pas être autre chose ou je voulais en tout cas m'en sortir. Et c'est tout simple, les premières choses. Quand on commence à gagner sa vie en faisant ce métier, c'est déjà énorme, énorme.
Ouais.
Moi, quand j'ai pu faire un cadeau pour la première fois à ma mère, avec l'argent que j'avais gagné en faisant ce métier, c'est gigantesque. D'abord parce qu'elle était inquiète pour moi. Il n'y avait personne qui faisait ce métier dans la famille. Bon, depuis, on fait tous le métier dans la famille.
On va parler de vos fils, Alexandre Astier et Simon Astier, bien sûr. Mais votre mère, elle avait peur pour vous. Alors, à un moment donné, vous avez fait vos valises pour Paris, Lionel Astier.
Ouais.
L'image, c'est-à-dire le cinéma et la télé... vous aviez le sentiment que si vous restiez à Lyon, peut-être vous alliez faire du théâtre, mais pas de cinéma.
J'aimais beaucoup être à Lyon, mais j'avais fait tout ce qu'on pouvait faire à Lyon. Alors je me suis dit, soit je fais un deuxième tour, soit je vais voir ailleurs. Alors ça n'a pas été facile ailleurs, mais je ne regrette pas d'être parti, parce qu'au début c'était un peu dur, mais c'était mieux. Je pense que c'était mieux de partir.
Alors, on vient d'évoquer à l'instant vos fils. C'est quand même assez miraculeux, la dynastie des comédiens. Manifestement, le don se transmet, parce que je pense aux familles Brasseur, Depardieu, Gainsbourg, Turquem et Balasco, même si leurs filles portent un autre nom. Mais vos fils, Alexandre Astier et Simon Astier, sont... de vrais phénomènes. Comment vous avez vu éclore leurs dons et leur passion pour le jeu ?
Alors, j'ai jamais été... j'ai eu cette chance-là de ne pas être un père inquiet. C'est-à-dire, j'étais pas inquiet sur leur avenir. Comme on dit dans les Cévennes, si les petits cochons les prennent pas pour des châtaignes, ils iront loin. ils se font pas manger. Mais c'est sûr qu'ils avaient des dispositions. Ça, je l'ai vu tout de suite. Après, ça ne veut pas dire que les choses vont se réaliser.
Ouais.
Mais effectivement, que ce soit Alexandre ou Simon, ils font la même chose. Hein. Ils réalisent, ils écrivent, ils jouent. Je ne peux pas dire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi. Voilà, pour...
Vous qui êtes tellement attaché à votre terre des Cévennes, Lionel Astier, il paraît, vous allez nous dire si c'est vrai,
des Cévennes ici, non ?
En plus hey, c'est pour ça qu'il y a de bonnes ondes, les good vibes. Très juste. Il paraît que c'est dans votre maison de Saint-Jean-du-Gard, cernée par les châtaigniers, que votre fils Alexandre Astier a imaginé et écrit la première saison de Kaamelott, qui ensuite est devenue la série culte d'M6 et a été portée au cinéma en 2021.
Oui, c'était une maison que je n'ai plus, mais on avait une maison, parce que j'ai deux enfants, mais avec deux mamans différentes. Mais dans cette maison, tout le monde venait. Tout le monde venait.
C'est la maison de la tribu.
C'est la maison de la tribu, et c'est effectivement dans cette maison que la première saison a été écrite de Kaamelott.
Mais vous aviez tout de suite deviné que l'aventure de Kaamelott risquait vraiment d'être folle.
Non,
ça a été une surprise.
Non, c'est simplement, j'étais au théâtre, j'étais sur trois pièces en même temps, et j'ai dit à mes employeurs, j'arrête, parce qu'on ne refuse pas une aventure avec son fils. En plus, j'avais lu les premiers textes, je les trouvais très bien. Je lui ai dit, si le public est comme moi, ça va marcher. Il m'a dit, il est peut-être pas comme moi, je te préviens.
Le public était comme vous.
Voilà. Mais voilà, je suis parti à l'aventure. On ne savait pas que ça allait marcher, mais je suis parti à l'aventure.
Ça a été plus qu'un succès, un triomphe. Vous avez failli jouer dans Kaamelott il y a une dizaine d'années, Victoria. Mais pourquoi faillir seulement ?
Parce que quand il m'a demandé, et j'étais en train de faire la série Clem, qui me prenait
sur TF1.
7 mois de l'année. Donc je n'ai pas pu. J'ai pas pu et j'ai bien regretté. Hein.
Bon, des tournages cultes, Victoria Abril, vous en avez eu pas mal dans votre carrière. Hein. À commencer, bien sûr, par vos trois films dirigés par Almodovar, Attache-moi, Talon Aiguille, qui vous a valu une nomination au César, et puis Kika. Depuis, vous vous êtes jamais retrouvé sur des plateaux avec Almodovar ?
Non.
Mais pourquoi ?
Parce que...
Vous revoyez-vous ?
On se voit surtout festival, quand il venait en France, j'ai fait toutes les promos pour lui, j'ai lui traduit, j'ai parlé déjà français parce que j'habitais en France depuis 82 et notre premier film ensemble c'était en 89.
Oui.
Et voilà, de toute façon, tu sais, on n'est pas mariés, hein. il n'est pas obligé. Moi, j'aurais bien voulu, mais apparemment pas lui.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est en compagnie de Victoria Abril et Lionel Astier qu'on se promène aujourd'hui, quelques heures avant qu'ils ne grimpent sur la scène du Théâtre Antoine à Paris pour jouer une tragicomédie absolument formidable, signée Jade Rose Parker, drôle de genre. Voilà, j'ai plein de questions à vous poser. Lionel Astier, à Paris, peu de gens connaissent l'histoire redoutable des Camisards, ces protestants français huguenots qui, dans les Cévennes, donc de 1685 à 1700, ont été pourchassés, exécutés, et puis qui ensuite se sont révoltés dans une véritable guerre qui a pris fin, je crois, à la mort de Louis XIV. Comme vous êtes un ambassadeur de cœur des Cévennes, et que votre grand-mère protestante et cévenole, c'était une figure inspirante, ben vous avez décidé d'écrire, il y a quelques années de ça, une pièce formidable, La Nuit des Camisards. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi cette pièce n'a été jouée qu'en Occitanie. Pourquoi vous l'avez jouée que dans les Cévennes ?
D'abord parce que alors la guerre n'a duré que 2 ans, hein, elle n'est pas, de 1702 à 1704. Mais d'abord, j'ai fait ça en collaboration avec un ami et metteur en scène, qui nous sommes tous les deux cévenols et nous avions toujours envie de monter cette pièce. Mais parce que, tout simplement, nous voulions la jouer à l'endroit de la guerre. Dans les endroits de la guerre.
D'accord.
Voilà. Et c'est une pièce qui est écrite pour la forêt. C'est-à-dire qu'elle ne se joue qu'en forêt.
Donc, c'est une scène qu'on monte en plein air.
Non, pas du tout. C'est
alors,
pas une scène. Il n'y a pas une scène. Il n'y a rien du tout.
On est sur la terre ferme.
On regarde sur Google Earth, on cherche des endroits sauvages où
incroyable.
Personne n'est jamais venu, par les corbeaux peut-être avant nous. Et on va jouer là et on convoque le public qui vient. Il n'y a pas de gradins. Ils sont assis par terre sur des couvertures ou des coussins.
Mais alors, on est dans une espèce de clairière au cœur d'une forêt.
Oui, exactement. Exactement.
Incroyable.
Avec un ballon à l'hélium qui éclaire le lieu, avec peut-être
joli.
Un ou deux projecteurs. Donc c'est très rapide, il n'y a pas de technique, c'est très léger. Voilà, donc il y a aussi une jauge limitée parce que techniquement ils ne sont pas repris en son et
c'est
comme ça.
C'est ça, donc c'est-à-dire au maximum
au-delà,
combien
500.
Mais c'est déjà énorme, 500
c'est
personnes.
Pas mal, c'est pas mal, oui. Mais on les avait chaque fois, on avait refusé du monde. Hein.
Extraordinaire. Et est-ce que vous avez choisi
non, mais
des lieux
en fait, je vous explique ça, alors, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la suite de la révocation de l'édit de Nantes.
Ouais.
Le protestantisme est donc interdit et
ouais.
les gens ont été convertis sous la force ou la menace. Voilà. Et donc, ils continuent à entretenir la religion protestante, mais dans les familles, en secret.
D'accord.
Et puis petit à petit, ça ne suffit pas. Ils partent dans la montagne, ils se réunissent en secret dans la montagne, ils refont des groupes et ils refont le culte, ils refont des assemblées. Et évidemment, ces assemblées sont poursuivies, ceux qui sont en confiscation de biens, galères, prison pour les femmes, exécution des prédicants ou
des pasteurs.
Et donc, nous, on a voulu recréer ça. C'est-à-dire que le public était convoqué et il avait une petite déambulation pour arriver sur le lieu du spectacle, entre chien et loup, c'est-à-dire à la tombée du jour, comme ça, pour recréer cette ambiance d'assemblée. Voilà pourquoi, pour l'instant, ça ne s'est passé qu'en Occitanie.
On est allé jouer. Est-ce que ça a été filmé ?
On est quand même... non, il y a quelques extraits.
Quelques captations.
Mais on est quand même allé le jouer en Belgique. Je ne sais pas pourquoi.
Les Belges étaient preneurs.
Ils sont géniaux.
Un jour, il y a un député belge qui est venu voir le spectacle. Il dit, je le veux pour chez moi.
Non, mais c'est extraordinaire. Mais alors... Est-ce
mais ça ne va pas être joué à Paris ?
Ah non.
Non,
non, non, non, non. C'est dans la forêt. Non, c'est vraiment...
Et un 24.
Lionel Astier tient dans la forêt, c'est
vrai.
Ah, mais en 2024, on va voir peut-être. Voilà.
C'est un pan de l'histoire et ça mérite de faire un deal peut-être avec l'éducation nationale et d'inviter les collèges, les lycées.
Non seulement ça, ce qui m'intéresse davantage et ça me permet d'en parler, je me suis fait des amis historiens depuis, et je parle d'Henri Mouisset qui est président d'une association qui s'appelle Les Pas des Huguenots. C'est très important, ça m'intéresse peut-être plus, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est un peu l'équivalent du chemin de Compostelle pour les catholiques, mais pour les protestants, qui va de la Méditerranée à la Baltique. C'est-à-dire, c'est le chemin que prenaient les fugitifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants. Parce qu'il y a eu 200 000 protestants qui, malgré l'interdiction du roi, parce que non seulement il fallait être catholique, mais on avait interdiction de quitter la France, interdiction de quitter le royaume, sont partis, au risque de tout perdre, même leur vie.
Ouais.
Et ce chemin, maintenant, est en train d'être... c'est-à-dire les Suisses sont maintenant dans l'affaire, tout ce long de chemin jusqu'à la Baltique. Donc peut-être, là, c'est intéressant de le jouer.
C'est formidable. Bon, aujourd'hui, on tue encore au nom de Dieu.
Ah, bah, si je peux juste rajouter ça, pourquoi ce spectacle? C'est pas parce que je suis Sevenol, c'est pas seulement ça, c'est parce que ça parle de la violence d'État. La violence d'État, elle est à 2 heures d'avion d'ici. La violence religieuse, elle est partout. Voilà. Toutes les libertés qui sont en danger, la liberté de conscience, la liberté de dessiner, la liberté de penser, etc., etc. Et effectivement, la question des migrants, la question des fugitifs. Les Camisards, c'est tout ça. Donc, c'est précieux d'avoir dans ses racines un sujet pareil, parce que ça permet de parler de maintenant par le biais de mes racines, voilà.
C'est formidable. Bon, vous êtes protestant, vous êtes pratiquant ?
Non, je suis de culture protestante. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais que les hommes de ma famille avaient disparu, j'ai été plutôt élevé par les femmes et par les protestantes.
D'accord. Lionel Astier, il y a 6 ans, je crois, vous avez créé votre propre compagnie de théâtre, c'est ça ?
Oui, j'ai créé une association. Oui.
Une association. Alors, c'est pas exactement une compagnie de théâtre.
C'est différent. Enfin, on a tous un peu des associations comme ça qui sont indispensables quand on fait des choses. Parce que maintenant, depuis que je fais ça, je fais aussi des conférences.
Incroyable. Vous êtes conférencier sur le sujet, donc.
Sur les Huguenots et sur le. J'ai fait une conférence sur la Saint-Barthélemy.
Mais
en tout
où
cas
les donnez-vous alors ces conférences, Lionel Astier?
Pareil, là-bas, je le fais souvent en collaboration avec un ami historien et voilà. Oui.
Voilà, la double vie de Lionel Astier. On apprend des choses insensées, n'est-ce pas, Victoria?
Incroyable.
Bon, Victoria, on a le sentiment que depuis quelques années, Victoria Abril, vous vous tournez de plus en plus vers le théâtre. Ça correspond à votre énergie et votre sens du défi?
Et parce que c'est un des rares endroits où on peut continuer à avoir la liberté d'expression. Parole, déjà.
On est plus libre au théâtre.
On est beaucoup plus libre. Le cinéma.
Qu'à la télé ou au cinéma.
Les cinémas, à partir de la quarantaine, c'est vraiment des rôles pas intéressants à jouer. La télé, oui, la télé, il m'a donné. Pendant 10 ans, des rôles à jouer beaucoup plus intéressants qu'au cinéma. C'est pour ça que. Dans la quarantaine, comme tu ne peux plus être actrice, je suis devenue chanteuse, je me suis autoproduite.
Vous avez fait plusieurs albums.
2 albums, et je me suis produit les albums comme les tournées. Donc, j'ai devenu une des actrices les plus heureuses à la quarantaine, grâce à la musique, parce que la musique, c'est comme l'espéranto que tout le monde comprend. Donc, tu peux chanter pendant 6 ans autour de la planète, en brésilien, en Roumanie, et ça se passe très bien. Et après, à la cinquantaine, où à nouveau ça devient un petit peu plus intéressante, les rôles, c'est la quarantaine. Les metteurs en scène ne savent plus quoi faire avec toi.
Il y a un no man's land, vous nous dites, si. Pour les femmes entre 40 et 50 ans.
Voilà, entre
au
40
cinéma.
Et 50 ans, tu as les aigris, mon mari me quitte pour une plus jeune. Et donc, c'est vraiment triste. Donc, je me suis dit, bon, si on ne t'appelle pas, appelle-toi toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je me suis dit, tiens, je voudrais chanter, mais des chansons que moi, j'ai choisies, que j'ai choisi tout. Les musiciens, les arrangements,
J'imagine bien qu'on ne peut rien vous imposer.
Non. Et puis après, voilà, il y a eu la télévision. Clem a un très joli rôle qui est devenu
une
série.
Justement, une série qui a formidablement fonctionné. En tout, il y a eu 12 saisons.
Moi, je n'ai fait que 8.
Hein. Vous en avez 9, fait 8.
8, ouais.
Mais ça vous a peiné, ce retrait de votre personnage, après la 8e saison?
Ça m'a peiné parce qu'ils m'ont coupé la tête hors champ. Tu vois, ils ont
enlevé... C'est-à-dire que le personnage disparaît dans un accident de voiture.
Avant, il disparaît dans un accident de voiture, mais on ne me voit pas. Donc, on ne m'a pas donné cette dernière saison ou cette dernière soirée où le personnage dit au revoir. Tu vois, mais attends, ça va s'arranger parce que 5 ans après.
Apparemment,
j'attends les scénarios. Mais si jamais ils sont bien. Je ferai une séance spéciale. On va faire les tournages en juin, si tout va bien, pour dire au revoir à Caroline, qui a été si mal expédiée.
Ah, donc, vous êtes en train de nous dire que ça, c'est le miracle de la télévision.
Ouais.
Le personnage est mort, mais pas vraiment.
Non, non, il est mort. Mais, justement, entre que je suis partie au Canada et les suivantes, il s'est passé 6 ans des comas de ma fille. Donc, on va savoir ce qui s'est passé avant l'accident.
Et ça, vous allez tourner en juin?
Oui.
Formidable. Bon, Victoria Abril, Lionel Astier, en ce moment, vous savourez le triomphe de la pièce drôle de Jean au Théâtre Antoine à Paris. Pendant 2 heures non-stop, Vous nous offrez des numéros d'acteurs qui sont hallucinants. Et après que le rideau soit tombé, il paraît, Victoria Abril, que vous, par exemple, vous avez encore assez d'énergie pour rentrer chez vous en traversant Paris à vélo.
Oui. Ah oui, oui, mais non. Moi j'ai quitté la voiture et les maris d'ailleurs en même temps.
Lequel en premier?
Et au même temps. En même temps. Au même temps en 95. Et donc, je me transporte en bicyclette.
C'est, oui, mais attendez, ça se termine tard, une pièce de théâtre. Ouais. Et après, ça veut dire qu'entre 11h et minuit, vous êtes sur votre vélo, vous traversez la capitale,
ouais.
Tout va bien.
Oui, c'est génial. C'est génial parce que, tu sais, après une pièce comme ça, où en fait, ça me recharge la batterie. La mienne, je vais dire. De venir, si, c'est bon, l'air frais, même la petite pluie sur la gueule parce qu'il pleut. Mais je m'habille, t'as vu comme je m'habille, je suis en...
En cosmonaute.
En cosmonaute.
Et vous rentrez comment?
Alors moi, c'est très sportif aussi parce que je lève le bras pour appeler les taxis.
Oh bah oui. Vous n'avez jamais pris un vélo pour le déposer.
Bon, non, alors, habite très loin.
Victoria Abril, si le secret de votre forme, c'est vos 12 heures de sommeil, donc ça veut dire que vous ne vous levez que très rarement avant 1h de l'après-midi.
Voilà.
C'est vrai.
Si
on vous appelle en fin de matinée, on a peu de chances que vous répondiez.
Ah bah, de toute façon, je ne dors pas avec les téléphones, donc...
Non mais vous l'entendez, c'est pas une raison pour vous lever.
Non, mais je l'entends même pas. Non. Mais je l'entends même pas. Non, je dors jusqu'à que je me réveille. Et cette pièce me fatigue beaucoup, donc... C'est entre 10 et 12 heures des sommets.
Elle vous fatigue beaucoup, mais elle nous ravit absolument. Drôle de genre, au Théâtre Antoine à Paris. Bon, le temps file, hélas. Qu'est-ce qu'on a oublié de se dire d'important, Lionel Astier,
merde.
Victoria Pour la suite, c'est
alors,
ça.
Est-ce qu'on a oublié de dire que c'est une tragicomédie interactive et thérapeutique, parce qu'on rit pendant 2 heures. Et c'est ça, c'est du bonheur. C'était... Pièce, c'est une machine, c'est une usine de bonheur. Tu sais, sérotonine, dopamine, gratos.
Elle est comme ça en permanence, Lionel.
Tout le temps.
Vous avez intérêt à filer le doigt sur la couture du pantalon.
Quand elle n'est pas comme ça, je suis inquiet.
Victoria
venez
Abril.
Venez rire.
Mais
c'est tout
oui,
ce qui nous reste.
Mais je suis venue et j'ai adoré. Victoria Abril, Lionel Astier, merci infiniment.
Merci à vous.
Et je rappelle à nos amis que cette conversation est à réécouter quand ils le souhaitent en podcast sur le site d'Europe1.fr. À très vite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.